On accueille Laurence maintenant au 3921. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurence ?
De région parisienne.
Région parisienne. 92. D'accord. Et vous avez quel âge ?
63 ans.
Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Laurence ?
Je voulais réagir parce que sur les deux dernières interventions hier soir tard, justement à propos de l'ASE.
Oui.
Et je voulais vous apporter mon soutien avec des témoignages avérés que j'ai vécu personnellement à trois titres différents. La première comme un parent d'élève où j'ai dû soutenir contre vents et marées une maman d'élève effondrée. Je vous énumère les trois cas et vous me direz ce que vous souhaitez que je développe. Hein.
D'accord.
La deuxième, c'est en tant qu'enseignante où j'ai soutenu également une maman d'élève dont on allait, à laquelle on allait retirer aussi la garde de ses enfants. Et la troisième, c'est très différent. En tant que belle-mère, je suis veuve, remariée, et mon mari a 5 enfants. Et nous avons eu maille à partir, j'ose le dire, avec l'ASE, qui nous a vraiment, vraiment pas ménagé. On a été convoqués au tribunal d'instance pour des faits qui ont été après démentis. Voilà.
Vous allez développer votre affaire à vous, hein, mais vous pouvez me parler de ces deux mamans. J'ai échangé avec un ami qui est dans le social ce soir et qui me parlait d'ASE et qui me confirmait que c'était une véritable catastrophe. Bien évidemment, l'ASE place par précaution. Hein, c'est vraiment l'argument premier avancé par l'ASE. On place un enfant par précaution. Et on entend parfaitement cet argument. Sauf que lorsqu'un enfant est placé, et le placement est renouvelable tous les 6 mois, mon ami me confirmait que 80% des enfants qui sont placés le sont jusqu'à la majorité.
Exact.
Et je vous laisse maintenant développer ce que vous avez à dire, parce que je vous demande, vous qui nous écoutez, de méditer sur ce chiffre. 80% des enfants sont placés et ils restent jusqu'à la majorité.
Je n'en ai aucune idée, mais je vous crois absolument. Voilà, ce qui s'est passé pour nous, c'est que nous sommes tous les deux veufs remariés. Mon mari a eu 5 enfants, moi-même 2, et nous nous sommes rencontrés il y a une quinzaine d'années. Donc, on a été prudents. Puis, on a cherché à rapprocher nos familles, et mon mari, bien évidemment, a pris sous son toit ces 3 garçons mineurs, alors que les filles ont souhaité garder leur indépendance. Voilà, donc ça ne se fait pas sans mal, mais quand tout le monde est de bonne volonté, ça peut très bien se passer. La situation était compliquée pour nous parce que la sœur aînée de son épouse décédée, donc la maman de mes beaux-enfants, la sœur aînée avait tout fait pour obtenir la garde des enfants. On a même demandé à mon mari de renoncer à sa paternité à son profit. Sur le lit de mort de sa propre épouse, il a évidemment refusé et elle a cherché par tous les moyens à nous enfoncer, à nous faire retirer la garde, et elle est à l'origine d'une grande cabale. D'ailleurs, elle a brisé la fratrie de mon mari en deux, et donc ça s'est terminé, c'est pas terminé facilement. On a d'abord eu une lettre recommandée, nous avons été convoqués tous les deux au tribunal d'instance pour mauvais traitement envers donc mes beaux-enfants, les propres fils de mon mari qui étaient sous notre toit. Il y avait des éléments avancés où je ne reconnaissais absolument pas la situation, à savoir que je refusais de leur préparer à manger, je refusais de leur faire des pique-niques. C'est des choses complètement erronées, puisque en fait, je me rappelle très bien d'un jour, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un jour je lui dis: tu t'en vas pour ta journée sportive, tu veux que je te fasse un pique-nique? Non, je préfère le faire chez sa tante, retourner chez sa tante, préparer son pique-nique. Et moi, au tribunal d'instance, on m'a dit: il paraît que vous refusez de lui faire un pique-nique quand il a des sorties. Voilà. Donc, je me suis dit: oh là là, là, ça sent le... D'accord, je vois d'où ça vient. Et on nous a mis sur le dos, à ce jeune qui avait 14 ans à l'époque, hein, une assistante sociale plutôt qu'une éducatrice, c'est ça, qui souhaitait le rencontrer tous les 15 jours. Lui, ça le saoulait, et elle le trouvait intrusive, elle l'a trouvé intrusive. Je lui ai dit, mais écoute, il suffirait que tu l'exprimes, on peut l'exprimer ensemble, c'est pas une personne qui te convient. On n'a pas eu le choix, elle a continué à venir. Et puis, plus personne, pendant 6 à 8 mois, plus personne. La voilà qui se remanifeste, qui, à la suite du nouvel entretien avec mon beau-fils, qui la voyait venir d'un mauvais œil, il a quand même accepté de la recevoir. Évidemment, je n'étais pas au même étage. Après, elle a souhaité me parler. Tenez-vous bien. Elle commence à me faire des tas de reproches sur la situation, que je ne m'en occupe pas, alors que j'allais voir le professeur principal, et je faisais tout ce que je pouvais pour faire comme pour mes propres enfants. Voilà, et vraiment, je ne reconnaissais pas mon beau-fils, ni dans son caractère, ni dans ses activités, rien du tout. Et à un moment, elle me dit, vous voyez que vous ne connaissez même pas sa vie. Et elle commençait à être un petit peu véhémente.
Oui.
D'accord. Et donc, j'étais toute seule avec elle. Et là, heureusement pour moi, c'est très prompt, très factuel, hein, elle me dit, enfin, je suis quand même contente de savoir qu'il fait du rugby. Je dis, mais il ne fait pas de rugby. Il fait de la boxe. Ah, vous ne connaissez même pas les activités de votre beau-fils. Alors, je lui ai dit, écoutez, ça va être facile à vérifier. Hein, on va appeler le club de sport, on va appeler son papa. Vous allez tout de suite, voilà. Là, elle a commencé à douter. J'ai vu sa tête qui changeait de couleur. Et elle referme le dossier pour lire le nom. Et elle me dit, oh, excusez-moi, je suis en train de vous parler d'un autre jeune. Ça faisait 20 minutes qu'elle m'accablait de tas de manquements de ma part, de la part de son papa, en me parlant d'un autre jeune. Et elle m'a dit, ah, mais on peut reprendre le dossier de... Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, madame, je crois qu'on s'est tout dit. Je vous remercie maintenant de nous laisser en paix. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très révélateur. Et à la fin, en partant, je lui ai dit, ce qui est quand même dommage. Elle n'était pas venue pendant 8 mois pour arrêt maladie. Et je lui ai dit, ce qui est quand même dommage, c'est que vous n'ayez pas été remplacée. Si vous pensiez que mon beau-fils était en danger, moi, pendant 8 mois, je l'ai nourri, je l'ai emmené chez l'orthodontiste. J'ai fait tout ce que j'avais, ce qu'une maman ou une belle-mère à faire. Et voilà, pour un peu, nous passions, voilà, et nous, on nous a rappelé que la tante était prête à l'adopter si son père refusait, renonçait, pardon, à sa paternité. Voilà, et bien, je peux vous dire que ce jeune, il est papa aujourd'hui, il a 25 ans, 10 ans de plus, et nous partons en vacances avec ma fille et ses enfants dans 15 jours.
Ah bon, voilà. Il ne va pas mal, cet enfant, enfin, en tout cas, ce grand devenu.
Il a été très mal. Oui. Il a été très mal, parce que quand on perd sa maman à 10 ans, on ne peut pas aller bien. En plus, ils habitaient dans une autre commune à l'époque, et l'environnement n'était pas réjouissant, donc ils ont touché un peu à ce que les touche à cet âge-là, à savoir...
Si je vous posais cette question, Laurent, c'était un peu ironique, parce que, voyez-vous, on entend tellement d'histoires autour de l'ASE, de la protection soi-disant de ses enfants, pas plus tard qu'hier soir, casser la relation fusionnelle de l'enfant avec son père.
C'est terrible.
Mais même, enfin, je ne sais pas, je suis père moi-même, comment peut-on prononcer une phrase pareille, casser la relation fusionnelle, comment être certaine et comment ne pas poser ces mots. En fait, on avait un enfant d'un côté qui était en pleine souffrance, et il était en pleine souffrance, cet enfant.
Je confirme, ses professeurs le disaient aussi. Mais voilà.
On avait de l'autre côté, comme ce dont vous nous parlez ce soir, mais comme hier soir Michel nous en parlait.
Hier soir.
On a une assistante sociale, enfin non, une éducatrice, pardonnez-moi, de l'ASE, qui se permet de porter des jugements. Alors la vôtre, elle se gourait complètement, visiblement, elle se trompait en plus de garçon.
Elle se trompait. D'abord, elle a été absente pendant, à peu près 8 mois. Je préfère rester en deçà de la vérité pour ne pas me tromper. Et nous, on se croyait, on pensait naïvement qu'on était un peu débarrassé de ce fardeau. Et en fait, elle est revenue encore plus fort. Voilà. Et elle avait tout pouvoir. Elle me dit, enfin, moi, je reprends vos propos, Olivier, d'hier soir. La toute puissance de l'ASE, oui, je la dénonce. Mais je réhabilite aussitôt les personnes de valeur qui travaillent dans cette structure.
Oui, mais bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Hein, et on va continuer à en parler d'ailleurs, car bien évidemment, je le redis, il y a énormément de ces éducateurs et ces éducatrices qui ont une vocation et qui font très bien leur boulot. Mais encore une fois, c'est de l'humain et on ne peut pas se gourer. On va laisser l'info passer, si vous le voulez bien, Laurence, et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord ?
Très volontiers.
À tout de suite. Il est minuit, passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1, si vous nous rejoignez maintenant, c'est la libre antenne d'Europe 1, comme tous les soirs, et nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien évidemment composer le 39-21 et nous écrire, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrire en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Laurence qui... témoigne encore de relations difficiles avec l'ASE. L'ASE, décidément, souvent au cœur de des témoignages, hein, sur cette antenne. Vous voulez me parler de deux... on va le faire assez rapidement, Laurence, parce qu'il y a pas mal de monde ce soir. Vous voulez me parler de maman qui avait été en délicatesse.
Pour faire bref, c'était en tant que parent d'élève, j'étais parent délégué et donc assez investi dans l'école primaire de mes enfants, l'école publique. Et j'ai connu cette maman parce qu'en plus nous étions voisines dans le même immeuble. Et elle s'est fait convoquer par l'école, notamment une certaine psychologue scolaire qui l'a complètement délabrée, enfin lui a fait très peur et puis est allée à entamer des démarches qui sont allées tellement loin qu'à midi, un jour, la directrice qui nous faisait pleinement confiance me dit « Madame, voilà, je tenais à vous dire mon chagrin, cet après-midi, les forces de l'ordre vont venir chercher les deux aînés de cette maman dans l'école. » Je dis « Mais elle est au courant ?» Elle me dit « Bien sûr que non. » Et pourquoi à l'école ? Parce que c'est plus facile pour eux. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler. Ça se fait de façon pas forcément très discrète, à savoir qu'ils peuvent intervenir jusque dans la classe, en uniforme, et que c'est traumatisant pour les enfants. Pour la maman qui vient les chercher et ne retrouve pas ses enfants avant quelle période, on n'en sait rien. Et surtout, il n'y a pas eu avant de discussion, vous voyez, de réunion éducative, de choses. Et cette maman, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'un jour, elle avait monté le ton parce qu'elle n'était pas d'accord, mais on lui reprochait de ne pas éduquer ses enfants, ce qui était complètement faux. Ils étaient propres sur eux. Elle leur faisait à manger, c'était une vraie maman poule, peut-être un peu démunie pour les devoirs, mais c'était pas un motif pour lui retirer ses enfants. Et du coup, nous sommes intervenus, mon association de parents, les deux autres fédérations, et on a pris sur nous de l'avertir à midi, surtout en lui recommandant d'aller chez le médecin pour qu'elle ne soit pas accusée d'absentéisme. Voilà. Et donc le médecin a arrêté les enfants plusieurs jours, et là on a pu construire tout un échafaudage pour témoigner en faveur de cette maman, tous les gens de mon immeuble, enfin voilà. Et du coup, elle a eu la garde de ses enfants jusqu'à... quand j'ai quitté l'immeuble, il avait 16 ans, voilà. Et je pense qu'elle est allée jusqu'au bout. Mais on allait venir sur simple déposition de la psychologue scolaire, qui en fait avait tout simplement pas d'anicroche, pas d'atome crochu, avec cette maman. Et du coup, elle voulait avoir raison. Et la machine était lancée. Et quand j'ai dit à la directrice, mais ils viennent cet après-midi, oui, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce n'est pas en mon pouvoir. La machine est lancée, elle m'a dit.
Oui, bon, alors si vous voulez, ce sont les procédés empruntés par... ça doit être la police ou les gendarmes qui viennent le chercher. Ou alors des éducateurs, je crois qu'eux aussi ont le droit de venir chercher les enfants.
On m'a dit en uniforme.
Oui, les gendarmes sont en uniforme. Encore une fois...
Alors peut-être fais-je erreur, je ne souhaite pas pouvoir...
Non mais ça c'est la procédure, on ne peut pas remettre sur l'ASE le fait que des gendarmes viennent en uniforme, si ce sont les gendarmes qui étaient dédiés à cette tâche. Non, encore une fois, le souci, c'est que souvent, on entend des témoignages ici sur cette antenne de personnes qui traversent, vous voyez, des passes difficiles, c'est-à-dire qui sont à la limite de la précarité. Et donc, tout à coup, là, on enlève ces enfants, parfois avec la conviction que ces enfants sont en danger. Or, je...
Oui, mais sans preuve, peut-être.
En tout cas, une interprétation des choses. Moi, je connais... j'ai beaucoup de personnes qui ont connu la précarité autour de moi, avec leurs parents.
Bien sûr.
Et qui sont restés avec leurs parents, et qui sont aujourd'hui des gens... mariés avec des enfants aussi et diplômés et qui ont je viens de tourner un film sur les transfuges de classe. Je vous certifie que les 4 transfuges de classe avec qui j'ai tourné ont tous connu la précarité. Et si l'ASE avait croisé leur chemin à un moment, à ce moment où la famille avait du mal à remplir le frigo, ils auraient pu être placés. C'est cela en fait que je dis et que je dénonce, c'est que des enfants, même dans la précarité, préféreront toujours rester avec leurs parents, sauf si on constate des mauvais traitements infligés aux enfants, ou si on constate vraiment...
Il n'y avait aucun sévice corporel dans cette situation.
Non, mais par exemple, si les enfants mangent un jour sur deux, vous voyez, là, le placement se justifie. Peut se justifier en tout cas, mais
voilà, mais peut-être que effectivement l'ASE n'était pas en cause, mais la psychologue scolaire avait quand même saisi l'ASE.
Mais vous savez, aujourd'hui, le souci,
on n'a pas su ce qui s'était passé pour que leur retrait de l'école soit fait à l'insu de leur maman. Voilà.
Donc, je
vous entends, hein, Olivier.
Aujourd'hui, Laurence, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même un voisin ou une voisine qui veut vous jouer un tour peut faire un signalement et tout ça peut partir en toupie totale. Il suffit qu'on traverse, encore une fois, une mauvaise passe. Et je trouve que souvent, dans les témoignages que nous entendons, la vie de l'enfant, le ressenti de l'enfant, l'envie de l'enfant de rester à côté de son papa et sa maman, qui, même si ils ont du mal à remplir le frigo, préfèrent se retrouver à côté de papa et maman plutôt que se retrouver dans un foyer où ils prennent des baffes par les copains, les copines, comme on l'a entendu hier soir. Malheureux, en fait. Je ne vois pas où est l'intérêt de l'enfant dans certains placements. Voilà.
Je rajouterais juste que l'épouse de notre beau-fils, que j'évoquais tout à l'heure, a été élevée par l'ASE et ça se passait mal à chaque fois, de mal en pis, et elle a festi famille comme ça. Elle en garde un souvenir terrible de son enfance. Donc voilà. Je voulais juste rajouter le troisième témoignage, si vous avez encore 2 minutes, parce que j'entends bien que... donc l'autre étape que j'ai vécue, c'est en tant qu'enseignante dans ma classe, un papa m'avait carrément manipulée, il était venu et pleurait me disant que la maman battait leurs enfants. Donc j'ai très ému, je l'écoute, le petit garçon, l'aîné à côté, confirme, oui, elle nous donne des claques, elle nous donne des coups de poing. Moi, j'étais bien sûr très à l'écoute, et j'en ai parlé à l'équipe pédagogique et c'est resté entre nous. Voilà, jusqu'au moment où le petit garçon, il s'est trahi, parce qu'il me disait des phrases toutes faites le soir, mais au lieu de me tutoyer comme dans la journée, il me disait, si vous ne voulez pas me croire, vous voyez, et me vous voyez, eh ben je ne vous ferai plus confiance. Mais je lui dis, c'est ta phrase ça, ou c'est ton papa qui t'a dit de dire ça? Il baisse la tête, il était ennuyé. Et tous les soirs à 4h25, au moment de mettre les manteaux, si vous ne voulez pas me croire, et vous savez, hier, maman a encore frappé mon petit frère. Et vous, mais je dis, pourquoi tu me vous vois? Je ne comprends pas pourquoi tu me vous vois, et toujours au moment de partir, parce que son papa... Bon. Bref, je vais au but. On s'est rendu compte qu'on était complètement manipulés par le père. C'est lui qui battait sa femme. Il vivait dans des conditions complètement rocambolesques, les enfants dormant dans le lit de la grand-mère, enfin bref, la maman sur un matelas par terre. J'ai réussi à la faire parler, la mettre en confiance. Elle a pris un appartement, il y a eu un jugement, enfin une garde alternée à l'amiable, et puis le jugement, on s'est battu avec une collègue, mais comme des folles, ça m'a pris 6 mois, et on espérait qu'elle obtienne au moins la garde alternée. Ça a été prononcé au profit du père. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai appelé l'ASE moi-même. Il ne voulait pas me répondre. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, soit on s'explique au téléphone, soit moi, je vous envoie un courrier recommandé parce qu'il y a une entourloupe là-dessous. Et alors, du coup, ils ont accepté de m'écouter. Et là, je leur rends hommage parce qu'ils ont accepté, à ma demande, de rendre visite au domicile du père et au domicile de la maman. Chez le papa, c'était des vieux matelas par terre, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait rien, voilà. Et chez la maman, je ne sais pas avec quels moyens, elle travaillait, mais elle habitait à 5 communes de l'école, elle n'était jamais en retard. Et chez cette maman, l'ASE a reconnu qu'ils avaient tous un lit bien fait, qu'ils étaient bien... voilà.
Mais vous savez, je le répète encore... il y a, j'ai parmi mes connaissances, des éducatrices et des éducateurs qui travaillent à l'ASE et qui me disent eux-mêmes quel type de dysfonctionnement il y a. Mais la grande majorité, et heureusement, Dieu merci, je les compare souvent à des infirmières, à des policiers, à des assistantes sociales. Il faut vraiment avoir une vocation pour faire ce métier. Parce qu'il y a tellement, dans ces administrations, en plus, beaucoup de manques, peu de budget, en fait, en tout cas, de budget mal utilisé. Hein, parce que,
peu de personnel.
Voilà.
Peu de personnel.
Donc, c'est ce pourquoi, en fait, voilà, on demande qu'il y ait un peu plus de contrôle pour que ça ne déconne pas, en fait, parce qu'on est dans l'humain. Merci, Laurence, en tout cas, de nous avoir appelés ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Passez une bonne soirée et puis...
Et merci pour votre écoute, votre bienveillance, Olivier.
Bonne nuit, je vous en prie, au revoir.